Et vous le savez, nous sommes dans une édition spéciale ce matin consacrée aux 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.
Non, un tweet, pas le 80 ans.
Non, 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, mon cher Alberto Israel, qui est notre invité, qui est votre invité ce matin, Lise. Je vous laisse le présenter d'abord, et puis ensuite, il aimerait bien témoigner tranquillement de tout ce qu'il a à nous transmettre.
Alberto Israel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Ce n'est pas une belle histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire de la disparition du peuple juif de Rhodes. Nous étions 2000 à Rhodes. On vivait tranquillement, bien, honnêtes, des gens qui allaient à la synagogue tous les jours. En juillet 44, les SS qui occupaient l'île ont aperçu qu'il y avait la synagogue à Rhodes. On est venu, on nous a pris, on nous a mis dans un bloc, et ensuite, on nous a mis dans des grosses barques de caïques. Et on est parti de l'île de Rhodes. Trois caïques avec 650 personnes par caïque. Nous sommes arrivés au Haïdar et au Pirée, quatre jours après, les jours d'été, c'était Shabéaf, c'était fin juillet. On nous a mis dans un bloc, dans un camp, ouvert au soleil. Et là a commencé la déportation. Ils ont commencé, n'est-ce pas, nous ont mis dans un bloc, un camp de concentration avec des barbelés jusqu'avant, jusqu'à ça. De là, on nous a menés à la gare. On nous a mis dans des trains, wagons bestiaux. Dans les wagons de bestiaux, il y avait entre 95 et 100 personnes par wagon. Ça part de Haïdar et de Grèce, destination, on la verra à la fin. Dans les wagons, il y avait rien d'autre que 95 à 100 personnes assises par terre. La température extérieure était de 37 degrés. Il n'y avait ni manger ni boire. C'est le 3 août 1944. Le train part. Le premier jour, on ouvre la porte. On voit s'il y avait quelqu'un qui était mort. Il y en avait. On les sortait, on les enterrait à côté du train de la rail. Et on fermait. On nous donnait un morceau de pain, un peu d'eau, et le train repartait. Pendant 13 jours et 13 nuits, nous sommes restés assis par terre sur le wagon. Donc, moi, pas moyen de respirer. Chaque arrivée, c'était uniquement pour sortir le mort du wagon, et ça continue jusqu'à Auschwitz. Nous sommes à Auschwitz, arrivés en Pologne. C'est là que commence l'histoire terrible. Après avoir été 13 jours et 13 nuits dans des wagons fermés, assis un à côté de l'autre, nous sommes arrivés à Birkenau. À Auschwitz, on a commencé, n'est-ce pas, à vouloir sortir les personnes qui étaient dans les wagons. Il y en avait beaucoup qui ne pouvaient plus se lever à force de rester assis. Ils ne savaient plus de lever. Les SS rentraient dans le wagon et les poussaient avec les pieds par terre. Ainsi que, comme ils tombaient, ils mouraient. Il y avait tous... À ce moment-là, à Auschwitz, il y avait les travailleurs juifs de Grèce qui étaient maintenant posés pour être travaillés. Et à ce moment-là, elle était en train de dire à tout le monde, les femmes qui avaient des bébés ou des petits-enfants, donnaient les petits-enfants aux personnes adultes. Ils seront mieux soignés. Donnez les petits-enfants, les bébés aux adultes. Comme ça, n'est-ce pas, ils seront bien soignés. À ce moment-là, les Grecs nous ont dit la vérité. Il a dit, ce n'est pas la vérité. C'est ce que nous vous disons, c'est pour sauver les personnes adultes. Voilà la maman qui a un bébé de petit âge, donc. Et alors, il lui dit, voilà, je vais vous expliquer la situation, hein, que la formule, que quand on est arrivé, la situation vraie, c'est que ici, les personnes de zéro âge jusqu'à 16-17 ans sont condamnées à mort. Chambre à gaz, crématoire. De 16-17 à 37-40, c'était travail. Donc, personne, travailleur, qui va au travail. Après 40, toute personne est destinée chambre à gaz et crématoire. Donc, c'est-à-dire qu'une femme qui donnait son bébé à sa mère, c'était pour lui sauver la vie à elle. Parce que si elle avait le bébé à son âge de 25 ans, 28 ans, avec son bébé, devait conduire le bébé à la chambre à gaz. Et pour conduire le bébé à la chambre à gaz, devait le conduire avec lui, il était condamné à mort. S'il avait donné le bébé à la grand-mère, alors à ce moment, elle était seule, elle allait directement arbeit, donc travaux forcés. Alors cette dame-là, n'est-ce pas, n'était pas morte parce qu'elle n'a pas avec son bébé. Et s'il avait son bébé, elle devait mourir avec. Jusqu'au moment. Vous savez, j'ai rêvé jusqu'à un moment que nous avons. Attendez, j'ai deux minutes, s'il vous plaît.
Mm-hmm. Bien sûr, Alberto.
Les personnes qui. Nous sommes. Attendez deux minutes.
Oui, bien. On comprend bien que c'est pas facile de témoigner, et pourtant vous l'avez déjà fait tellement de fois, et chaque fois ça vous replonge dans cette horreur, j'imagine, Alberto.
Alors, à ce moment-là, nous sommes aperçus que les petits-enfants qui avaient été les petits bébés qui avaient été laissés pour les grands-mères, les bébés, les femmes qui avaient les bébés ne savaient pas les supporter. Les Allemands ont pris les bébés, les posés par terre. Et quand tout le monde est parti, ils n'ont pas laissé, n'ont pas envoyé l'argent. Les enfants, ouais, c'était fini, n'ont pas envoyé les enfants à la chambre à gaz. Et les ont jetés vivants au crématoire, au four. On a fait le crématoire, c'est-à-dire qu'on porte au crématoire. On arrive. On va au crématoire, on les coupe les cheveux, on les lève les dents d'or qu'ils ont dans la bouche, et ils envoient tous ces gens-là au four, au crématoire. Nous, après ça, nous avons été transportés dans une mine de charbon. Nous avons travaillé dans une mine de charbon jusqu'à 18 janvier. À le 18 janvier, on nous a mis à pied. La température était entre 18 degrés, 28 degrés et 22 degrés. Le 18 janvier, 18 degrés, 28 degrés et 22 degrés. Nous avons commencé la marche de la mort. On a quitté Auschwitz. devraient me poser des questions.
Bien, Lise.
Oui, bien sûr, Alberto. Alors, avec ce que vous venez de nous raconter, et on comprend votre émotion, est-ce qu'après tout ça, vous avez réussi à mener une vie normale, Alberto ?
Vous avez compris la question, Alberto ? Lise vous demandait si après tout ça, vous aviez réussi à vivre une vie normale.
Oui.
Après la libération, après avoir vécu tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous êtes parvenu à vivre une vie normale ?
Normal, nous n'avons jamais été. Vous savez, regarde, aujourd'hui, je n'ai pas été la force de faire un témoignage. Un quart d'heure avant, j'avais été prêt. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce moment. Vous savez, le 27 janvier, vraiment, la fin n'est pas le 27 janvier, c'est le 18 janvier. Le 18 janvier, on a commencé la marche de la mort. Dans la marche de la mort, c'est-à-dire que vous êtes moins 22 ou moins 28 de température, à pied, avec ou sans chaussures. 100 kilomètres après. Après les 100 kilomètres après, on nous a mis dans des trains, wagons ouverts. Et là, on était assis. On devait se retenir parce qu'autrement, on ne pouvait pas. Il n'y avait ni à manger, ni à boire. La seule boisson qu'il y avait, c'était notre urine. On pouvait boire notre urine parce qu'elle était chaude pour réchauffer. Là, dans les wagons, il y avait des gens qui se congelaient. Quand nous sommes arrivés à Mauthausen, il n'y avait même pas un quart dans les wagons qui étaient vivants. Il n'y avait pas moyen de survivre à ça. C'était des miracles. Mais le 27 janvier, c'est-à-dire, nous sommes partis dès le 18. Ils ont laissé là-bas. Ils ont bombardé les 4 crématoires et les 4 fours et les 4 chambres à gaz. Ils ont crématoires et avaient fini. Là, à Auschwitz, sont restées les personnes qui ne pouvaient pas marcher. Parmi ces personnes qui ne pouvaient pas marcher, il y avait Aaron Franco, Sammy Modiano et mon frère Eli. Quand les Russes sont arrivés, il n'y avait pas d'Allemands, ils n'ont rien battu. C'est-à-dire, ils ont occupé la ville, les blocs plutôt, et à ce moment-là, ils ont commencé à s'occuper des personnes qui étaient. S'ils n'ont pas fait la marche de la mort, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, ils étaient handicapés, ils ne pouvaient plus bouger. Mon frère Eli a trouvé le moyen de se faire infiltrer dans une chambre, dans un bloc. Et là, il a trouvé, n'est-ce pas, de la nourriture. Il s'est mis à manger, il a continué à manger jusqu'à ce que la mort se le suive. Il a fini de manger, il a commencé avec des douleurs horribles. C'est Sammy Modiano et Aaron Franco qui étaient avec lui, qui m'ont raconté. Le 27 janvier, mon frère Eli est mort à Auschwitz, par suite des nourritures qu'il a mangées, que les intestins n'étaient pas habitués à recevoir.
Et on voit ça aujourd'hui même avec la libération des otages du Hamas, comme quoi on les renourrit doucement justement pour éviter ce genre de problème, Alberto. Nos auditeurs auront compris que quand vous parlez de 28 et de 22 degrés, il s'agit bien de températures négatives, on est d'accord ?
Négatives, oui.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça, il y avait je ne sais pas, cette année-ci, il n'y a plus neige pas là-bas, la température était toujours, mais nous connaissons qu'un seul hiver. Mais nous n'étions pas couverts, nous n'avions pas rien. Les Juifs ne valaient pas la valeur d'un autre. Ils étaient condamnés à mourir. C'était Fafloute, Chouaïne, Youn, Fafloute, Chouaïne, Youn, des maudits cochons juifs. Tous devaient mourir. Moi, j'avais 17 ans. J'étais devenu mineur. J'ai travaillé dans une mine de charbon à Charlottenkrube. Avec moi, il y avait beaucoup de juifs de Rhodes qui travaillaient à la mine. Beaucoup. Je dis, quand je dis que vingtaine, c'est beaucoup.
Bien sûr.
Vous savez, c'est.
En fait, quand on vous écoute, Alberto, c'est très difficile de pouvoir être dans une autre émotion que celle que vous nous transmettez. Et justement, on sent à travers vos propos comment vous revivez chaque fois que vous en parlez, vous revivez ces moments-là. Comment faites-vous pour...
Je viens de constater une chose. Quand j'ai fait des témoignages à l'école, j'ai fait des témoignages très bien, formidable, tout bien. Quand je suis seul dans une bande comme ça, je me trouve... la première fois que je me rends compte moi-même que je ne parviens pas à faire un témoignage comme il faut, comme ça. Non,
mais votre témoignage est tout à fait, j'ai envie de dire,
vous
parfait.
Vous savez, si je vous raconte, quand nous sommes arrivés à Auschwitz, à Birkenau, ils ont commencé à nous taper avec un tuyau en caoutchouc, rempli de plomb. Les gens qui étaient sur le wagon, qui ne pouvaient pas marcher, le type, il venait avec les pieds, il les poussait, et le type par terre, tombait du wagon, dans le temps où nous étions après 13 jours et 13 nuits, dans des wagons fermés. Parfois, on nous donnait un morceau d'eau, un morceau de pain, ou un morceau d'eau, ou rien. On arrêtait le train, on prenait les cadavres, on les enterrait à côté des rails. On faisait un trou et puis on portait. Une chose plus inhumaine de ça n'existe pas.
Ben justement, je voulais vous poser cette question, Alberto. Est-ce que vous qui témoignez, vous l'avez évoqué dans les écoles, un petit peu partout, est-ce que vous avez l'impression que les gens, bien sûr, ils ressentent ce que vous dites, et comme moi actuellement et comme Lise là-bas où elle se trouve, on le sent, et nos auditeurs certainement, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on comprend vraiment ce qui s'est passé là-bas, ou bien c'est juste, selon vous, de l'empathie, mais on peut pas imaginer vraiment ce qui s'est passé?
Je vous assure, vous serez étonné. Le nombre de personnes qui sont en train de pleurer dans la salle. Il y en a. L'homme, des hommes, les garçons et comme filles. Parce que c'est dans les écoles, ça doit être les élèves de 17 ans et plus, pas moi. Mais vous les voyez, ils pleurent.
Bien sûr, oui. Mais ils pleurent de ce que vous racontez, mais est-ce que vous croyez, vous, qu'ils arrivent vraiment à imaginer ce que vous racontez?
Parce que je ne parle pas complètement. Je parle différemment, très très bien, et si je suis très émotionnel.
Mais je comprends bien, mais ce que je voulais dire, c'est, vous comprenez peut-être pas vraiment le sens de ma question. Bien sûr que votre témoignage est fondamental, je dirais, c'est même un passage obligé, mais ma question c'est, est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez, que les gens qui vous écoutent vont vraiment pouvoir imaginer l'horreur dans sa toute autre dimension?
Oui.
D'accord.
Oui. Ok. Oui, je le vois par la question qu'il me pose par la suite. Par la question qu'il me pose par la suite. Parce que moi, vous savez, si vous voulez savoir, vous avez mis une question. Le mois de juillet à Rhodes, à mai, à Auschwitz, vous-même, posez-moi la question, tel jour ou telle nuit, où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, je vais vous la répondre.
Bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose
qui est
très présent.
Je peux vous dire jour par jour où j'étais.
Bien sûr. Mais ça, on s'en est rendu compte parce que vous donnez des dates extrêmement précises. Je voulais vous poser encore... Je voudrais revenir à la question que je vous posais précédemment, Alberto, si vous permettez. Vous allez aller le 23 mars prochain, si Dieu veut, faire le voyage de la mémoire à Auschwitz. Votre sentiment, quel est-il de retourner là-bas? Toujours pour témoigner, on a bien compris cette envie de transmettre, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui vous atteint? Est-ce que c'est pas quelque chose, c'est pas une torture quelque part que vous vous imposez?
Écoutez, on peut pas. Moi, je suis ici. C'est bien dans cet état maintenant, c'est parce que je suis en train de vous raconter. Pas raconter, je suis en train de revivre.
Je comprends bien.
Vous savez, nous sommes arrivés en Grèce. Jusqu'à là, ils étaient gentils, j'étais très bien, parce qu'ils avaient peur. Nous étions 600 hommes de Caïque, il y avait 6 Allemands dans le bateau. Et 6 Allemands et nous amener en Grèce. Et la Turquie était tout près. On pouvait aller. Mais on ne comprend pas pourquoi les jeunes qui étaient là-bas, il fallait prendre les six types et les jeter à la mer. Et nous étions en Turquie. Comment est-ce qu'on était così? Ça a été vu. Quand la vérité est arrivée, quand nous sommes arrivés en Grèce. Alors nous avons mis dans un camp de concentration verrué, avec des barbelés, n'étaient plus libres. Tandis qu'avant, ils étaient bons, ils venaient plaisanter avec nous dans les bateaux, nous donner chocolat ou donner du lait à la femme qui cherchait. Ils avaient peur d'une révolte. Là, la vérité, c'est qu'arrivés en Grèce, nous ont mis dans un gant avec des barbelés. Un monsieur de 50, 60 ans s'est levé, il était là-bas pour prendre de l'eau. Là, ça s'est arrivé avec un tuyau en caoutchouc bourré de plomb. Et là, commencé à taper. Il a dit, qui t'a autorisé à te lever? Qui t'a autorisé à te lever? Il a tapé jusqu'à ce que les morts s'en suivent. La mort était là, elle l'a tué.
Non, bien sûr, je comprends bien, Alberto. Et c'est des choses que vous revivez en permanence. Est-ce que vous arrivez à passer une nuit sans cauchemar, Alberto?
Les jours de Noël, nous sommes dans les blocs et il y a les toilettes qui sont à côté. On peut aller que par deux personnes à la fois. Quand elles sortent des blocs, on va à la toilette et on revient au bloc et on change. Quand nous sommes passés, on passait des blocs à la toilette, il y avait les deux SS avec le chien loup là. J'ai entendu un Allemand qui lui a dit, c'est grosse, à cause de ce maudit cochon juif, je n'ai pas pu aller pour passer mes vacances de Noël dans ma famille, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour me remplacer. Quand nous sommes sortis de la toilette, que nous sommes partis, ils ont lâché le chien, et le chien a commencé à courir derrière nous, nous la parlera. À un certain moment, le dernier chien est tombé sur la prime, mon copain qui était avec moi. Il a pris à la gorge, il a mordu à la gorge et l'a tué. Quand vous avez assisté à une chose pareille, et bien, au lieu de venir, je ne peux pas arrêter. Je me suis enfui pour arriver à mon bloc, être protégé.
Bien, effectivement. Alberto, vous avez écrit un livre également, un livre qui s'appelle « Je ne vous ai pas oublié ». C'est pour eux et pour ceux qui sont morts, j'imagine, que vous témoignez.
Non, je voulais leur dire que je ne vous ai pas oublié. C'est pour ça que je viens toujours, j'ai fait des témoignages, j'ai eu des témoignages des élèves. Il y a, avec 1800 élèves, des écoles sont faites pour faire un seul témoignage. J'ai fini, j'ai fait énormément de témoignages. J'ai écrit un livre. J'ai une lettre de Simone Veil qui me remercie et me félicite.
J'imagine, oui. Ce que vous faites est juste exceptionnel.
Quand je suis devant une salle pleine de gens, je suis différemment. Mais quand je fais un témoignage, je fais dire une heure et demie, alors je fais avec tous les détails, tout ce qui se passe dans les wagons. Vous savez que tous les 13 jours et 13 nuits, on ouvre la porte des wagons une fois, on ouvre au sol le cadavre, on les enterre là-bas, on nous donne un morceau de pain, on sort le fût, 13 jours et 13 nuits, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, et on n'est pas mort.
C'est de la résilience permanente et un combat.
Quand la marche de la mort, il suffit, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas la force de continuer à marcher, il ralentissait la marche. Alors pour éviter qu'il ralentisse la marche, elle est arrivée, il tirait une balle dans la tête, il est jeté au calade à côté, et on continue.
Je comprends bien, je sais que des exemples comme ça, vous en avez malheureusement que trop à nous en raconter. Le temps nous est compté, Alberto. Je voudrais vous poser ma dernière question. Vous venez aujourd'hui, et on vous en remercie, témoigner de ce que vous avez vécu il y a 80 ans et l'année précédente. Votre transmission, c'est bien sûr pour que l'histoire n'oublie pas, mais c'est aussi pour que les jeunes n'oublient pas. Est-ce que vous avez confiance dans la jeunesse pour transmettre, pour continuer de transmettre ces souvenirs de la Shoah et que cette Shoah ne disparaisse jamais de l'histoire?
Très oui, très très oui. je le vois très bien. Et plein de jeunes. Ils viennent et je pose les questions qu'ils posent. Ils veulent faire une photo avec. Ils veulent tout savoir. Ils posent des questions même familiales. Mais ils se disent comment est-ce possible que vous n'avez pas bougé. Je ne me rendais pas compte dans quel état les camps étaient. Mais ils étaient très, ils sont très, 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 oui.
Ils vont transmettre, vous pensez?
C'est pour ça que j'ai continué le témoignage des écoles.
Les écoles, et même vous accompagner, le 23 mars prochain, à Auschwitz même.
J'ai fait témoignage en Italie, j'ai fait témoignage en France, j'ai fait témoignage dans les îles, en Sardaigne, en Corse. J'ai fait des témoignages en Italie, bien beaucoup, en Belgique et en France. Ici, en Belgique, j'ai fait des témoignages. Parfois, il y avait des écoles qui réunissaient beaucoup dans une salle. Une fois, c'était 900 personnes, une fois, 1800 personnes. Et puis, ils posent des questions. Il faut voir les questions qu'ils posent. Mmh.
Bien, Alberto, le 23 mars prochain, vous accompagnez pour le voyage de la mémoire qu'organise Radio Judaïka, l'UJB, le KKL. Quel est votre état d'esprit quand vous êtes aujourd'hui à Auschwitz? À quoi pensez-vous quand vous êtes là-bas?
Comment est-ce possible? J'ai perdu mon frère Eli parce qu'il a mangé tout ce qu'il pouvait. J'ai perdu mon frère Eli, c'est 28 ans. J'ai perdu mon frère Aaron, qui lui est mort à 21 ans, est mort à Mauthausen après la marche de la mort. J'ai pris mon père et ma mère. Ils sont arrivés à Auschwitz le 16 août, le 27 avril. Donc, directement, chambre à gaz. Après la chambre à gaz, four. Après le four, avant le four, plutôt, on leur coupe les cheveux. On enlève les dents. Parce qu'avec, et puis on enlève, on fait la graisse pour faire du savon. On arrive les dents et puis on prend les cheveux pour faire de la laine.
Oui. Enfin bref, comme vous dites, c'est l'horreur absolue et finalement l'être humain n'apprend pas de ses erreurs puisqu'on voit aussi encore aujourd'hui des gens capables de se comporter comme les nazis de l'époque.
Oui, oui.
Et,
oui, d'abord, la raison, la première que j'ai dit, oui, c'est parce qu'ils acceptent et ils demandent d'assister. Il faut voir, n'est-ce pas, là, pour vous dire, il y a 1800 élèves, des élèves qui, pour un témoignage, et pour voir après, je reste au moins 2 heures qui posent des questions. Donc, la réponse est là, s'ils n'étaient pas intéressés, ils n'auraient pas fait, parce que c'est pas agréable de m'entendre raconter ces histoires. Et puis, par après, poser toujours des histoires.
C'est pas que c'est pas agréable,
c'est pas du tout.
Alors, bien sûr,
sont là.
Mais voilà, elles sont là. Il faut témoigner de la réalité des choses.
Elles participent.
Et on vous en remercie parce que j'imagine que ça doit pas être facile pour vous de revivre sans cesse ces moments-là.
Autrement, on l'aurait pas fait. C'est parce qu'on a cette satisfaction. Écoutez, les témoignages sont gratuits. Donc, il y a bénévole, on ne parle pas d'argent. Moi, dans ma question que j'ai dit, on ne parle pas d'argent. Ici, il n'y a pas d'argent. C'est tout est bénévole.
Je comprends bien. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait déjà et que vous continuerez de faire dans l'avenir pour faire en sorte que personne n'oublie jamais et puis que ce ne soit plus jamais ça, mais que ce ne soit pas qu'un slogan en fait, que ce soit vraiment dans la réalité. Merci beaucoup Alberto et Israël d'être venus à notre micro ce matin. Et que puis-je moi vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Il n'y a plus rien de bon.
Bon, vous savez, pourquoi pas? En tout cas, on vous souhaite déjà la bonne santé, quoi qu'il arrive.
Vous savez, donc, quand je revois les scènes, je n'ai pas raconté tout, parce qu'il y a des histoires.
J'imagine. Et on imagine bien, et je pense que...
Dans la marche de la mort.
Oui.
L'SS est en train de manger une pomme au marchand. Il a fini la pomme, il reste le tronchon de la pomme. Il l'a acheté par terre. J'étais pour le ramasser, pas pour le manger, pour sentir l'odeur. Dès que j'ai mis la main, il a mis les pieds sur ma main, je l'ai retiré pour presser. Et je lui ai dit, warum, pourquoi? Hier, kein warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Ok. Bien, je pense que tout est résumé. C'était juste de la barbarie. Oui.
Quelqu'un qui a demandé un prisonnier à un Allemand, warum, il l'a abattu. J'étais là. Mmh. Il était en train de marcher. Il a piqué, il a frappé. Et il a dit warum. Warum? Un verfluchtes Schwein, Jude, un maudit cochon juif, va poser un SS, warum? Il a sorti le revolver et l'a battu. Quand il y a eu l'histoire de la pomme, le type qui était à côté de moi, il m'a dit, il t'aurait abattu. J'ai dit, j'ai peut-être fait exprès pour qu'il me rabat pour en finir. Parce qu'il y en a qui se sont pas suicidés, mais qui ont provoqué leur mort. C'est arrivé, ça. Souvent, ils se jetaient sur le SS. Et ils savaient très bien que s'ils les jetaient là-bas, il y en a qui ont fait ça. Pour ne pas se tuer eux-mêmes. Ils se faisaient tuer par les Allemands.
Bien. Ben écoutez, Alberto, merci infiniment et ça m'ennuie de devoir arrêter votre témoignage, mais le temps presse.
Il n'était pas bon mon témoignage.
Il était parfait, Alberto. Quand je dis parfait, je veux dire par là que vous avez parlé comme d'habitude avec votre cœur et avec vos tripes, et ça suffit largement. Vous savez, le fond est bien plus important que la forme. Je comprends bien. Merci infiniment, Alberto, d'être venu aujourd'hui. Et une belle journée quand même à vous.